partie de ces citoyens et ces citoyennes qui ne souhaitent pas attendre 2027 pour mettre l'écologie et la justice sociale au pouvoir. Comme vous l'avez dit, il y a vraiment urgence, on ne peut pas attendre, on ne peut pas rester passif face à la multiplication des candidatures à la présidentielle l'année prochaine. Et donc, ma question est assez simple. Donc effectivement, je suis bénévole dans un projet qui s'appelle la primaire populaire, et je voulais savoir quel regard vous portiez sur cette initiative citoyenne qui est là pour éviter la dispersion, pour reprendre vos mots, mais aussi sur l'idée d'un rassemblement et d'une candidature unique pour l'écologie et la justice
Merci.
En 2022.
Merci Paul pour cette question. Je précise...
Vous êtes en tête.
Dans cette primaire populaire, 100 000 inscrits à cette primaire, les organisateurs en espèrent 300 000. C'est un processus hors parti et vous êtes donc en tête dans le premier état des lieux, le premier état des forces, Christiane Taubira.
Ben, bonjour et merci Paul. Oui, j'ai connaissance de cette primaire citoyenne, de cette initiative que je trouve belle et audacieuse, hein, parce que c'est vraiment un pari qui est pris sur la démocratie participative d'une certaine façon. Et je sais qu'il y a de belles personnalités. J'ai rencontré une jeune femme qui se prénomme Mathilde. Je l'ai rencontrée au Festival du journalisme à Couture. Moi, j'ai rencontré une personne d'une grande maturité, respectueuse des règles, des personnes, etc. Donc voilà, moi tout ça c'est le bouillonnement de la société.
Alors, je vais vous lire la réaction de Valentin qui est pour le moins déçu. C'est ces mots, hein. Vous faites honte, Christiane Taubira, à la gauche, et vous avez déçu l'ensemble de la gauche par votre manque d'initiative pour la présidentielle de 2022. Vous étiez la seule à pouvoir rassembler, vous ne l'avez pas fait malgré les promesses que vous aviez faites.
Bah, je réponds pas à quelqu'un qui se monte agressif sans raison sur un sujet extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Donc moi, ça fait des années que je dis que je ne conçois pas les histoires de personnes providentielles. Ça fait des années que je répète que je n'ai pas une vision messianique de la politique. Ça fait des années que je dis que moi, je ne fais pas partie de ces gens qui considèrent que leur personne incarne le destin de la nation. Ça fait des années que je dis ça. Donc on a le droit de ne pas l'entendre. On a le droit d'être déçu aussi. Bah, je comprends que des personnes soient déçues.
Il est agressif parce que c'est sa déception, manifestement.
Vous avez abandonné, dit Fatia au standard.
Ce sont des personnes qui ont mis de l'enthousiasme, mais ce sont des personnes qui ont pris une initiative et dont certains d'ailleurs ont considéré que ça leur octroyait des droits sur ma personne. Donc moi, je peux entendre tout ça. Ça fait partie des accidents,
mais
des décisions et de l'incompréhension dans la société.
Vous ne reviendrez pas sur
votre
décision.
Madame, je prends la présidentielle extrêmement au sérieux, en particulier celle-ci. Compte tenu des urgences. Donc moi je dis, nous sommes dans une période où voilà, nous avons 5-6, vous les avez comptés vous-même, candidats de la gauche. Moi je pense que les choses vont se clarifier. Il y a des primaires qui sont en cours, d'ailleurs je crois qu'il y a une qui commence aujourd'hui. Il y a un parti qui a déjà dit qu'il va mobiliser ses militants et ses sympathisants soit pour adouber une candidate, soit pour désigner pas exactement. Bon. Donc je n'ai aucune raison aujourd'hui de m'impliquer dans ces processus n'appartenant pas à ces partis politiques. Je comprends l'enthousiasme des personnes et même la déception de ces personnes qui se sont lancées depuis plus d'un an maintenant dans une activité. Mais bon, voilà. Et puis, je pense que la déception va tomber. Elles vont se rendre compte qu'elles ont lancé une très belle expérience qui va sans doute déboucher sur quelque chose de tout à fait épanouissant en termes d'implication dans la vie politique et dans la vie civique. Et voilà. Je suis désolée pour Valentin.
Un mot, en cette rentrée, ça n'a pas dû vous échapper non plus, l'espace médiatique et politique est saturé par Éric Zemmour, qui se dit philosophiquement favorable à la peine de mort et qui veut par ailleurs interdire les prénoms étrangers en réactivant une vieille loi qui date de Napoléon, fini Mohamed, Kevin ou Jordan. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
D'abord, moi, je ne crois pas qu'il me faille accorder du crédit aux propos de Monsieur Zemmour. C'est pas une pensée politique, ce sont pas des arguments, ce n'est pas un raisonnement, ce sont des objurgations, ce sont des choses, voilà, ce sont des déclarations qui ne reposent pas ni sur une philosophie, justement. Il y a des concepts philosophiques de droite, il y a des concepts philosophiques d'exclusion, etc. Ça ne repose pas sur ça. Ce sont des objurgations. Je n'apporte pas de crédit à ça en commentant,
Il est donné à 10% dans les sondages.
Oui.
Ça vous étonne ?
Non, cette société a, et c'est en ce sens que je crois que justement les personnes qui se sont mobilisées pour cette sur une base civique pour cette élection doivent comprendre que l'enjeu est colossal. L'enjeu est colossal et c'est pour ça que la gauche ne peut pas se permettre de perdre cette élection et que je ne peux pas aller justement gentiment m'aligner en tant que 7e ou 8e candidate de la gauche. L'enjeu est colossal parce que la société a été travaillée ces 20 dernières années par des idées d'exclusion, de rejet, par une xénophobie tranquille, par une intolérance. C'est un pays où on humilie, On a humilié un gamin il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'on l'a empêché de manger parce que sa maman n'avait pas payé la cantine. L'enfant n'a pas payé ça. Heureusement, la défenseur des droits s'est autosaisie. C'est un pays où on humilie tranquillement. On prive et on humilie. Il y a quelques mois, ou un an, on a humilié des adolescents en les mettant à genoux en public. On humilie dans ce pays et on trouve ça normal. Le pays reste calme alors qu'on écrase la jeunesse de ce pays, alors que nous sommes tous en danger, alors que nous savons que le danger climatique ne peuvent pas attendre, que nous savons que l'injustice sociale, ça produit de la colère, de la rage. On sait tout cela. On peut pas s'amuser et simplement s'asseoir et dire « je suis candidat ». Et je ne critique pas celles et ceux qui sont candidates et candidats. Je dis que moi, face à cela, je ne peux pas juste m'amuser et laisser, les Zemmour et d'autres. Après Zemmour, il y en aura d'autres. Parce que des individus comme ça, qui sont dans un confort matériel, un confort social, un confort moral, entre guillemets, parce que personne ne conteste leur haine, personne ne les marginalise, personne ne les stigmatise dans l'incapacité qu'ils ont d'accepter la société et la présence des autres, on ne peut pas se permettre de jouer. On ne peut pas se permettre.
Merci Christiane Taubira.
Merci. Ces morceaux de vie comme carreaux cassés, publiés chez Robert Laffont. Merci encore d'avoir été à notre micro ce matin, 8h48.
Toujours un temps d'avance avec AXA, premier assureur des entreprises.
Bon Théo, petit brief sur les alarmes.
Okay.
Ici, alarme intrusion, là, incendie, et là, alarme OVNI.
Hein? OVNI?
Non, je rigole.
Professionnels et chefs d'entreprise, avec les nouvelles offres Atout Pro PME d'AXA, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction si vous mettez en place des mesures de prévention dans vos locaux. Récompenser les comportements responsables, c'est aussi ça vous accompagner. AXA. Baromètre chef d'entreprise Kantar 2020. Informations et conditions en agence sur go.axa/multirisque.
Je veux créer mon entreprise.
Va au salon de la franchise.
Quelle est la bonne idée pour me lancer?
Va au salon de la franchise.
Et avec mon budget?
Oui, va au salon de la franchise. Plus de 420 idées de création d'entreprise pour tous les budgets et tous les conseils pour se lancer. À Paris, Porte de Versailles, du 26 au 29 septembre ou en ligne. Toutes les infos sur franchiseparis.com.
IKEA.
Et si on célébrait la vie à la maison? Le 16 septembre, ouvrez la porte à de nouvelles expériences avec le IKEA Festival sur IKEA.fr. Un tour du monde de maisons inspirantes de designers, DJ, artistes, grands chefs. Et du 16 au 18 septembre, vivez le IKEA Festival en magasin. Ateliers créatifs, dégustations et plein d'autres surprises. Programme à découvrir sur IKEA.fr.
La revue de presse, Claude Askolovitch.
France Inter, le 7-9.
On parle, Claude, de battements de cœur.
Qui disent la communion des âmes et la puissance des mots, car vous lirez sur Slate une découverte de chercheurs français et britanniques d'une université de New York. Quand des êtres humains écoutent la même histoire, leurs cœurs battent à l'unisson. Même s'ils ne sont pas dans la même pièce, même éloignés les uns des autres, l'histoire leur parvenant par quelques techniques. En écoutant, leurs fréquences cardiaques se synchronisent et vont fluctuer en rythme au fil du récit. Dans l'expérience, c'est une version audio de 20 000 lieues sous les mers qui a provoqué la rencontre des palpitants. Car écouter une histoire, c'est se sentir prêt à agir. Nos cerveaux nous demandent d'être attentifs et cette attention rythme les battements du cœur. Mais attention, si l'attention se relâche, si chacun s'ennuie ou pense à autre chose, les cœurs s'éloignent. D'où question, faisons-nous également à Inter battre vos cœurs en rythme dans nos babillements du matin? Mais si nous vous ennuyons, vous voilà séparés. Et cette petite histoire rend un son politique. Quand la presse raconte la France où l'on peine à écouter la même histoire et l'hebdomadaire La Vie titre sur un pays qui aime se déchirer, saurait-on lui dire avec amour « il sera une fois ». Nos journaux racontent une femme qui aura raconté une histoire à son pays. Et Le Point nous apprend que des lycéens d'Allemagne regardent sur TikTok des petits films à la gloire d'Angela Merkel, leur seconde maman dont se joue la valse aux adieux. Lobs la raconte face aux dirigeants français qui lui ressemblaient si peu. Le Point nous dit que Vladimir Poutine, méchant, sachant sa peur des chiens, confronta Angela à Connie, son labrador noir. Lobs prétend que le dirigeant russe, en fait, avait montré à l'Allemande une peluche canine. Le Monde, dans une série, montre la Merkel déterminée de l'accueil des réfugiés, mais aussi la Merkel habile ou bien scrupuleuse, qui laissait son Parlement instaurer le mariage homosexuel, mais elle-même vota contre la réforme, tout en appelant au respect et à l'apaisement. La Croix décrit enfin une société allemande devenue sous Merkel, complexe, métissée, plurielle. Vous rencontrez une femme pasteur protestant, née d'un père égyptien musulman et d'une Allemande catholique. Elle se sent exotique, cette femme, mais veut être un pont, et dit ceci. Il s'agit d'exister dans une communication avec les autres, sans identification ni fusion. Ces mots sont de Jean-Luc Nancy, philosophe français récemment disparu, qu'il est bon de relire ces jours à venir.
Et on parle d'amitié.
Chouette sentiment, Léa, qui anime de chouettes personnages, des philosophes encore. C'est dans Libération un papier illustré d'une photo des petits camarades Sartre et Aron au moment de leur retrouvaille, compte rendu d'un livre signé François Doss, Amitié philosophique, qui compte les liens que des grands esprits fondèrent sur le partage de la raison. Mais hélas, l'homme ne se refait pas et parfois les compagnonnages se défont. Les communistes antistaliniens, Lefort et Castoriadis, aimaient les mêmes femmes et prétendaient tous deux diriger le groupe Socialisme ou Barbarie. Quant à Jacques Derrida et Paul Ricoeur, ils se quittèrent pour des raisons impérieuses. Ils divergeaient sur l'interprétation de la métaphore et puis aussi sur la place à accorder à la position de Heidegger sur le poétique comme horizon de la dissolution du philosophique. Et si je souris, c'est avec reconnaissance. Il y a de beaux mots ce matin. L'Écho républicain nous raconte la visite du président Macron chez Marcel Proust, hier à Hyères-Combray, là où Marcel, Brigitte Macron s'en souvient, attendait le baiser de maman. L'Humanité nous fait rêver de Cuba avec le très grand écrivain Leonardo Padura qui raconte la dissolution de la Révolution dans une fresque d'amitié intitulée « Poussière dans le vent », chanson anglo-saxonne du groupe Kansas qu'il écoutait clandestinement jeune homme sur une radio de fabrication soviétique. Vous lirez dans Paris Match un récit passionnant sur une beauté qui nous vient, l'histoire de la collection Morozov, née de la passion pour nos peintres de deux frères russes de la fin du 19e siècle, qui achetèrent notamment un Van Gogh éblouissant d'angoisse, la Ronde des prisonniers, huis clos de damnés dans une lumière blafarde. Avec la révolution russe puis le stalinisme, les trésors des Morozov furent spoliés, nationalisés, dispersés, mais les voilà revenus avec leur nom, bientôt à la fondation Louis Vuitton apparue. À Paris, chanceux, nous irons. Lobs, encore, raconte la fragilité d'une église que Claude Monet peignit en 1882, Saint-Valéry de Varangeville-sur-Mer, perchée en Seine-Maritime sur une falaise de craie qui chaque année recule de 40 cm. L'église et le cimetière qui l'entoure sont promis à la mer. Déjà au 19e siècle, un curé, dans son serment, l'avait prédit. Le Monde, enfin, nous raconte un évêque espagnol qui a renoncé à sa charge pour l'amour d'une écrivaine de romans érotiques. On veut l'exorciser, il a l'air soucieux, je l'espère heureux.
Et on parle enfin de voleurs, Claude.
Qui a mini le huttier, dit l'Union, vendangé avant le légitime propriétaire, le raisin de Morgane Moutot, jeune viticulteur et ancien militaire qui désormais patrouille la nuit près de ses vignes. Le bien public, lui, raconte les menaces qui pèsent sur une start-up française, OnLive Gaming, qui a inventé une technologie qui permet aux propriétaires de casinos de connaître en temps réel les mises de tous les joueurs de jeux de table. Mais une société japonaise qui a racheté un partenaire de la start-up organise son étouffement pour tout récupérer. Le site du Point, lui, raconte un Arsène Lupin sino-américain qui s'approprie la filiale chinoise d'un concepteur britannique de processeurs qui imprudemment lui avait laissé la signature. En Chine, on dit le sceau. C'est un beau mot.
Merci Claude pour cette revue de presse 8h54, l'édito média de Sonia De Villers.
Sonia, le mois de septembre est le mois de la Fashion Week. Des Fashion Week, vous faites le point sur un grand groupe de presse dédié à la mode et au luxe, Condé Nast.
Un groupe américain, Léa, centenaire, qui affirme relever la tête après des années d'errance stratégique et de pertes abyssales. Un groupe américain propriétaire du mythique Vogue, le plus haut de gamme des magazines féminins, de l'illustre Vanity Fair, de Architectural Digest, dit AD, bible de la déco, de JQ pour les hommes et de glamour pour les plus jeunes. Des marques de presse magnifiques qui...
France Inter.